Accompagné, c'est tellement mieux.
10h01, salut, bon matin, comment ça va? Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, merci d'être là, soit dit en passant. C'était les résultats numéristes aujourd'hui, tous les artisans de radio avaient leur bulletin de vote. Certains se sont fait dire « Vous travaillez tellement fort, c'est pour ça qu'on est là ». Il y en a d'autres qui se sont fait dire « Ouais, vous devez travailler plus fort ». Je sais pas de quel côté tout le monde fait partie, mais du moins, on a regardé nos sondages. Puis, de notre côté, moi, je pense que les auditeurs sont satisfaits de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit. Puis, on a tous l'intention de travailler encore plus fort.
Oui, puis c'est toujours la journée où on prend conscience du pourquoi on fait ce job-là, puis on prend conscience aussi...
Ah! Si moi, c'est le contraire!
Tu m'as tellement fait faire un saut!
Moi, c'est la journée en me disant pourquoi je fais ça?
Bien, c'est une journée qui est
stressante. Pourquoi je suis pas syndiqué? Pourquoi je travaille pas pour le gouvernement?
C'est une journée où, veux pas, tu prends personnel les résultats qui rentrent, même s'il y a toujours une marge d'erreur.
Ouais.
Mais c'est une journée, pour moi, personnellement, du moins, qui me rappelle que c'est à vous autres qu'on doit un merci, parce que sans vous autres, on n'a pas de job.
T'sais. Exact.
On n'a pas avoir des patrons dans l'entreprise, nos vrais boss, c'est pas mal vous, dépendamment de ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous voulez entendre.
Merci d'être là, les amis. Aujourd'hui, on a un show assez le fun. On va parler avec Fred Caron, qui est un ancien casque bleu. Il va venir nous jaser dans le cadre de la Journée internationale des casques bleus. Puis on va en savoir plus sur ce qu'est ce métier-là, le
oui.
métier de casque bleu, les missions qu'il a faites, les endroits où il a été, les règles d'engagement aussi pour un casque bleu, parce qu'un casque bleu, c'est là pour sauvegarder la paix dans le pays où on l'envoie. Mais sauvegarder la paix...
À quel prix?
À quel prix? Puis tu dois te mêler quand de la patente,
ouais.
quand t'es pas concerné. Si tu vois des crimes devant toi, t'es le gars qui représente l'autorité, tu peux-tu agir? J'ai plein de questions à poser à Fred Caron.
C'est une carrière militaire pour lui qui s'est échelonnée sur 25 ans, donc de 88 à 2013. Puis depuis une dizaine d'années, là, maintenant, tu vois, il évolue au sein du programme Sans Limite. Il va nous en jaser aussi. Là. Puis il a même écrit un livre. Puis ça, je savais pas. Puis sérieusement, ça va faire partie de mes lectures cet été. L'envers de la médaille, où on plonge en fait dans l'univers d'un militaire, donc de Fred Caron, qui a vécu justement des expériences qui sont assez uniques, qui a fait face à des défis de taille, on va se le dire. Fait que, non, c'est une entrevue que j'avais vraiment hâte qu'on fasse, pour être bien honnête. Ça fait des semaines et des semaines qu'on la mijote, puis c'est aujourd'hui que ça se passe.
Parfait. Je regardais ce matin, je faisais ma tournée des différents quotidiens, puis j'avais des questions à te poser. T'as-tu déjà fait voler chez vous, toi? T'as-tu déjà fait voler dans ton char,
non.
chez vous? T'as-tu déjà fait voler quelque chose qui était
non.
précieux à tes yeux?
À part par mon petit frère, là, non.
Ouais, ça, c'est drôle, hein?
Ah, ça, c'est fâchant.
Non, mais c'est drôle pour un père.
Ah ouais.
Oui, parce que tu dis, OK, là, le petit frère a volé quelque chose à son grand frère, puis là, ben, il te dit pas que c'est lui, mais tu le sais, vous êtes trois dans la maison. Là. Il y a lui, il y a toi.
T'es pas tata, là.
Il y a son frère qui s'est fait voler.
Mm-hmm.
Là, toi, en tant que père, t'es certain que c'est pas toi qui l'a volé, c'est pas un biscuit. Fait que tu dis, à un moment donné, il m'a le retrouvé, puis là, tu y parles à lui, tu sais qu'il a volé, puis là, il dit, non, non, papa, j'ai pas volé mon frère. Non,
oh là là.
OK, mais tu sais ce que c'est, voler quelqu'un, c'est plate, hein, tu sais. Quand tu te fais voler quelque chose, t'aimes pas ça, ben c'est la personne qui se fait voler ressent la même chose, tu sais. Admettons que c'était toi,
mm-hmm.
tu filerais comment? Puis en bout de ligne, moi, de mon côté, là, c'est arrivé, ça arrive pas à tous les jours, là, mais moi, de mon côté, après quelques minutes, papa, j'ai quelque chose à te dire.
Oh ouais, oh, culpabilité ouais. embarque. J'étais même si... aussi jeune.
La conscience. Ouais. J'ai recueilli quelques histoires autour de moi de parents qui ont eu à dealer avec le vol. T'sais, certains, c'est les enfants qui se sont fait voler. Et dans d'autres cas, c'était les enfants qui étaient voleurs. Puis bon Dieu que tu le prends personnel quand c'est ton enfant qui est voleur.
Oui, parce que tu te dis où est-ce que j'ai foiré. Oui,
puis je jasais de ça avec un de mes chums qui me posait la question, tu sais, qu'est-ce qu'on donne comme punition à un enfant qui vient t'avouer qu'il a fait un vol puis qui, le lendemain, il était se dénoncer lui-même. J'ai dit, man, tu n'en donnes pas. Tu le félicites de son geste, de s'être dénoncé. Puis tu essaies juste de savoir pourquoi il avait volé telle affaire. Tu sais, dans ce cas-là, c'était une carte Pokémon. Là. Fait que c'était assez banal.
C'est de base, mais c'est le geste, c'est l'intention.
C'est juste que l'enfant, le soir, a dit à son père, « Je vais aller porter une carte Pokémon que j'ai volée à mon ami. Mon ami n'était pas gentil, je voulais le faire payer, puis j'ai pris sa carte. » Est-ce que c'était ça, la vraie histoire? On ne sait pas. Mais tu ne chicanes pas un enfant qui se vend lui-même et qui va s'excuser. La job est déjà faite.
Me disait, « Faut avouer à moitié pardonner. » Fait que son approche changeait. Quand je me vendais.
Ouais.
Je passais, moi, mettons, un moment de rince. Là, c'était plus équilibré.
Mais c'est plus de savoir pourquoi. Tu sais, parce que c'est pas nécessairement des enfants qui manquent de tout qui volent. Ça peut être des enfants qui manquent de rien puis qui décident sur un coup de tête de prendre quelque chose aussi banal qu'une carte Pokémon. Tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là avec mes gars. C'est que quand j'allais dans les magasins, ils gardaient leurs mains dans les poches. Mais combien de parents, à la sortie des magasins, se sont aperçus que les enfants avaient pris quelque chose puis mis dans la poche, ou c'est le détective de magasin qui est sorti en disant « Ouais, salut mon petit Pierrot de 3 ans, j'aurais quelque chose à te dire. Ça se peut-tu que t'aies pris quelque chose puis mis dans ta poche? » Hey, tu te sens cheap en tant que parent?
Hey, c'est épouvantable. Moi, ma mère m'avait obligée à ramener ce que j'avais pris.
Ah, tu avais, c'est ça, tu avais fait, elle t'avait fait honte.
Ouais. Ouais, c'est même qu'elle marchait, ma mère. Ça marchait, je ne leur faisais plus, mais ça sentait mal.
J'avais vu, j'avais vu ça à la télé, je pense. C'était un documentaire, peut-être, ou SOS Nancy qui m'avait jasé de ça. Mais des parents qui décidaient pendant une journée de faire honte à leur enfant. Donc, tu sais, ils n'allaient pas voir le gérant de la pharmacie, genre, pour dire « Hey, j'aimerais ça que mon enfant fasse des travaux compensatoires. » Ce que je trouve correct. Tu vas juste voir le gérant, tu lui expliques le cas, puis tu dis « Mon enfant va travailler 2 heures pour toi. Est-ce que tu as de l'étagère à faire? T'as-tu quelque chose à transporter? » Tout ça. La personne avait fait « J'ai volé ce magasin, puis c'était une pancarte, puis le petit gars devait affronter les regards de tout le monde. » Le petit gars ou la petite fille.
Oh mon Dieu, c'était épouvantable, ça, par exemple.
Mais ça, je pense que tu scrapes ton enfant pour...
Il y a une limite.
Pour une couple de semaines.
Hey, sérieusement, non, ça, c'est humiliant. Il y a une limite. Tu peux pas humilier ton enfant. Là. Ouais. Il y a quand même un... Tu peux y apprendre une leçon quand c'est la première fois. Là. Mais moi, mes parents ont toujours... Ils ont travaillé notre empathie. Puis là, ça, c'est semi du vol, là, mais mon petit frère, quand j'étais jeune, je me souviens, à un moment donné, qui avait brisé un des jouets que j'aimais le plus parce que justement, il voulait être bavé, il voulait être fâché, tu comprends? Puis mes parents, ils avaient demandé de choisir son jouet préféré, puis ils l'avaient cassé pour qu'il ressente ce que j'avais ressenti. Ce qui est épouvantable quand je pense aujourd'hui, probablement qu'il était comme sans moyen tellement que moi, j'étais en crise. Ouais. Mais nous autres, ça a toujours marché de même chez nous. T'as fait quelque chose de mal, ben on va aller cogner chez le voisin puis tu vas t'excuser face à face. C'est pas moi qui vais le faire, c'est toi qui vas subir la conséquence de tes actes. Hein. Fait que ça a comme fait en sorte qu'on a pris conscience assez rapidement que tout ce qu'on faisait avait un impact, positif ou négatif, tu sais. Ce que j'apprécie aujourd'hui, les techniques sont peut-être à revoir, mais je pense qu'avec le vol, c'est la même chose.
Exact. Puis pourquoi je te parle de vol? Tu connais-tu Vincent Danfousse? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un joueur de hockey qui évoluait chez le Canadien. On l'a appelé longtemps Monsieur Hockey chez le Canadien du temps où il était là. C'était un gentleman jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'avec les filles, ça brassait un peu une fois de temps en temps. Dans les dernières semaines, il se serait fait voler.
Voler quoi?
Il se serait fait voler son coffre-fort. Puis on parle pas d'un petit coffre-fort, là. On parle d'un coffre-fort qui est haut de 5 pieds.
Fait que c'est pas facile nécessairement à sortir, là.
2 pieds par 2 pieds. Fait, puis ça, c'est, je sais pas, c'est en fonte, je sais pas trop quel matériel que c'est, mais c'est lourd en sacrifice, là. Donc, il s'est fait voler ça. Puis dans ce coffre-fort-là, puis ça, c'est toujours mon réflexe. T'sais, quand t'as un coffre-fort chez vous, c'est clair que les voleurs vont partir avec le coffre-fort. Mm. Fait que mets tes affaires personnelles auxquelles tu tiens ailleurs. Au maximum ailleurs. T'sais, au pire, mets des trucs niaiseux dans le coffre-fort. Anyway, ils vont juste sortir avec. Ils n'auront pas le temps de l'ouvrir chez toi. Et dans son coffre-fort, ils ont trouvé 10 000 $. Bon, 10 000 $, c'est plate. Lui, c'est un gars qui a énormément d'argent. Fait que 10 000 $ pour lui, c'est peut-être...
100 $ pour nous autres, genre?
Ben, c'est peut-être 100 $ pour lui, puis pour nous autres, 10 000 $ versus lui, c'est peut-être 100 000, mettons.
Ouais, c'est ça. Mettons qu'on met ça à l'échelle.
Là. Fait que là, il a perdu 10 000 $. Ça, c'est plate, mais il a perdu ses souvenirs. C'est des cartes de hockey qu'il conservait. Il a perdu des bagues, entre autres une bague de la Coupe Stanley qu'il a remportée. Là, on dit une bague du Temple de la Renommée, mais je pense qu'il y a une petite erreur aussi. Là. De mémoire, il n'a jamais été admis au Temple de la Renommée. Peut-être que ça se fera dans les prochaines années. Mais il a perdu ça aussi. C'est des souvenirs que tu retrouveras...
Il y a du sentimental là-dedans.
C'est des souvenirs que tu retrouveras jamais. Ouais. Tu sais, la bague, je ne sais pas dans quel matériel elle est, mais si elle est en or... c'est une bague de la Coupe Stanley, des Canadiens de Montréal. J'imagine que le numéro de Vincent Danfousse est écrit dessus...
Mais ça, j'imagine...
Ouais, 24 Together.
Ils vont le retrouver, là.
Comment?
Ben, ils vont retrouver la personne qui a volé. T'sais, une bague de même, il n'y en a pas 18 qui va se vendre sur Marketplace dans les prochaines semaines.
Je ne veux pas me bagager, là, mais si elle est en ordre, d'après moi, elle est déjà en cube.
Oh là là.
Ouais.
Ouais.
Y pensez-vous, les trucs Tu sais, moi, je suis un peu freak, là. Les seuls trucs de valeur que j'ai chez nous, c'est les albums de mes enfants. Je te l'ai dit, ouais, là, les photos ouais. numériques de mes enfants, c'est sur des clés USB. Puis j'en ai à trois places différentes. J'en ai chez nous des clés USB, des copies de. J'ai chez leur mère des copies de. Puis j'ai chez leur marraine des copies de. Fait qu'il peut pas avoir trois incendies à la même place.
Idéalement, non.
Mais pour le reste, j'ai pas tant de souvenirs auxquels je tiens tant. T'sais, incluant le cadre où il y a moi pis toi dessus.
C'est louche.
ça peut brûler. Mais t'as-tu déjà pensé à protéger les trucs qui sont hyper précieux à tes yeux?
Ben, je me rends compte que non. Je me rends compte que non parce que...
C'est pour ça que j'en parle.
Non, ben, puis t'as raison de le faire. Ben, je réalise que j'ai pas de coffre-fort. Mais je réalise aussi, puis c'est peut-être une question... La façon dont t'es élevé dans la vie ou t'es... Je sais pas, mais il y a rien auquel je tiens à ce point-là. Comprends-tu ce que je veux dire?
Ouais.
Tu sais, moi, tant que j'ai tout ce qui est vivant là, autour de moi, là, mon chien, mon chum, là,
tu comprends? Toi, c'est le vivant.
Puis, c'est sûr que ça serait maudit que je perde mon téléphone ou mon ordi parce que la majorité des souvenirs sont là-dedans, okay. Étant donné que tout est numérique.
T'as-tu des bijoux de tes grands-parents?
Ils sont sur moi.
Ils sont sur
tout
toi.
Ce qui est. Je porte aucun bijou qui n'est pas sentimental. Fait que tout ce qui est vraiment précieux, généralement, est proche de moi en tout temps dans mon environnement. Il y a des affaires que je traîne dans mon char. Fait que il y a peu de choses que je laisse derrière au day to day.
La bague de mariage de sa grand-mère, là.
Ouais.
Il la conserve où?
Il n'y a pas encore la bague de mariage de sa grand-mère. Dieu merci, personne n'est décédé de ce bord-là encore.
Ah, ça fait un peu une bonne raison d'attendre encore.
Franchement. mais je pense que... c'est des bonnes questions, Yann, matin, le tabarnouche.
Mais je vous le dis, protégez-vous avec ça arrive, parce que ce soit des voleurs ou encore des incendies, quand ça arrive, c'est cruel. Moi, je te l'ai dit, je rénovais une maison, ils m'ont volé mes outils puis les outils de mon beau-père. C'était pour genre 3-4 000 piastres. On ne l'a même pas déclaré parce que ça valait pas vraiment la peine de le déclarer. C'était des vieux outils, puis on s'est refait en neuf. Mais n'en demeure pas moins que te faire voler, des fois, c'est une incursion dans ton intimité.
Mais c'est ça le plus dur, je pense.
Puis là, t'as honte. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous. Là. T'es fâché, t'as plein d'émotions. Puis là, en plus, lui, perd ses bagues, sa bague de la Coupe Stanley. Il ne le reverra jamais, possiblement.
Non. Il n'y a pas 8 copies. Là. Il en referont pas une, tu comprends, pour le plaisir. Là. Non, c'est tough, mais je vais réfléchir à ça. Puis le coffre-fort, ils doivent en faire des plus petits formats que tu peux cacher quelque part. Là. Mais ça vaudrait peut-être la peine, effectivement. Je pense aussi que le fait, Yann, qu'en toute vérité, moi, j'ai pas encore d'enfants, mettons. Probablement que ce qui va être relié à mes enfants va devenir ultra précieux. T'sais, moi, je sais que ça va être mon genre, peut-être dans une couple d'années, d'avoir un bac avec tous les petits souvenirs de bébé. Là. J'aurais le cœur en 8 de perdre ça là, après ça. Fait que, je pense que j'ai pas encore non plus. Je suis pas très matérialiste à la base, mais je pense que j'ai pas encore ces effets-là qui vont devenir peut-être dans le futur très, très, très précieux pour moi.
Ouais.
Je sais pas, 88-971-1021, je sais pas comment vous autres vous gérez ça, là.
Ben, moi, je vais te le dire, là, j'ai pas de coffre-fort chez moi, mais les trucs qui sont hyper précieux sont vraiment pas évidents à trouver. T'sais, tellement que si je meurs, il y a personne qui va trouver ça. Peut-être lorsqu'ils démoliront la maison, là.
Mais
il va falloir que tu cherches longtemps
dans
avant de trouver mes fameuses clés USB. Là.
Des murs.
C'est quelque part dans la maison. quand j'étais jeune, Audrey, je me souviens, je pense que c'était chez Woolco.
Les anciens Walmart.
Ouais, il y avait une fausse plaque. Pour l'électricité, là, pour brancher les fils. Là. C'était une fausse plaque. Fait que tu creusais un trou dans le gibroc, là, un carré, qui était la même grandeur que la plaque. Puis dans cette plaque-là, il y avait comme un coffre-fort. Puis tu vissais, tu vissais ça dans le mur, tu touchais plus ça. Jamais personne n'aurait pu penser que c'était une fausse plaque d'électricité. Là.
Mais oui, on en trouve.
Ça y ressemblait comme deux gouttes d'eau. Puis les madames, ils mettaient leurs bijoux là-dedans. Les bijoux qui étaient précieux,
mais ça,
qu'ils voulaient garder.
C'est pas fou. J'ai déjà vu derrière un cadre aussi. Tu sais, il y en a qui sont
dans les films, c'est tout le temps derrière un cadre.
Oui, j'essaie. Il va falloir que je réfléchisse à ça. On est là-dedans. Là. Fait que...
Okidou. Donc aujourd'hui, c'est Fred Caron, un ancien casque bleu dans le cadre de la sécurité, de la journée internationale des casques bleus. Il va venir nous jaser de son métier de casque bleu qu'il a pratiqué pendant plus de 25 ans. Sinon, à la météo, ben, jusqu'à maintenant, c'est très beau. Cet après-midi, on nous annonce de la pluie. Donc, profitez du temps qui reste. Ensoleillé pour aujourd'hui avec des probabilités d'averse à 40% cet après-midi. Maximum de 21. Ce soir, ciel nuageux avec un minimum de 13. Et vendredi, ce sera nuageux avec un 60% de probabilité d'averse. Maximum de 19 degrés. Nous autres, on s'arrête un peu. On vous met de la musique. Les news de Max s'en viennent dans les prochaines secondes aussi. Puis on revient tantôt. Ah, on me demande de faire la météo. C'est bleu plein ciel.
C'est bon.
Fait soleil. Il n'y a pas grand nuage à l'horizon. Là. Peut-être quelques petits nuages que tu pourras me confirmer dans le secteur nord, Audrey, mais pour le reste, on est bien Québec.
Honnêtement, même dans le secteur nord, c'est pas... C'est des petits nuages pour faire un beau paysage. Il n'y a rien là-dedans.
Il n'y a rien là-dedans? Bon, parfait. Cet après-midi, on parle d'un 40% de probabilité d'averse. Donc, si vous avez le temps ce midi, allez profiter du soleil. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous avez quelque chose à nous dire, ça fonctionne par texto.
Il y a un léger ralentissement si vous êtes sur Laurentienne, direction sud, vous allez chercher la capitale, direction ouest. Sinon, la circulation est interdite sur la bretelle vers l'autoroute 40 ouest quand vous êtes sur Dufresne-Montmorency. C'est pas mal tout pour l'instant. Ça roule super bien. Quoi que ce soit d'autre, vous vous gênez pas. Là.
10h25. Est-ce que vous êtes amoureux des livres? Audrey semble être une grande passionnée des livres, de lecture.
Oui, j'imagine ça dépend lesquels.
Toutes comme Audrey, ou encore vous êtes de simples curieux, ne manquez pas la méga bibliovente au centre de foire d'exposité. Ça se déroule à partir d'aujourd'hui, donc du 29 au 1er juin. C'est le rendez-vous littéraire de l'année. Des milliers de livres qui vont être présents à prix réduit. On parle de romans, on parle de bandes dessinées, des livres jeunesse, des essais. Donc, vous allez trouver ce qu'il vous faut nécessairement. Si tu as ta carte de la bibliothèque, l'oublie pas. Il y a des tirages qui vont se faire pour les membres aussi. Donc, viens faire le plein de découvertes, des coups de cœur, des bonnes affaires. 200 000 documents déballés tout au long de l'événement. Ça va être un super de bel événement. Pour connaître les heures d'ouverture et en apprendre davantage, visite bibliothèquedequebec.qc.ca. Méga bibliothèque. All right. Ça va être une belle entrevue aujourd'hui. On aime bien ça, les recevoir, quand on a des bonnes raisons de les recevoir. Puis c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des casques bleus. C'est une journée internationale qui a lieu tous les ans, le 29 mai. C'est aujourd'hui. C'est un événement qui a été créé en décembre 2002 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une journée qui rend hommage au personnel civil, policier, militaire, pour leur contribution inestimable au travail de l'ONU. On a le plaisir de recevoir en studio Fred Caron, qui est un ancien casque bleu dans le cadre de cette journée-là. Salut Fred!
Bon matin, ça va bien?
Content de te jaser. Je t'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a de ça quelques années, dans une autre vie radio, je t'avais vu passer aussi. Les gens se souviennent de Fred Caron. Tu as eu une super de belle carrière militaire.
Oui, c'était vraiment plaisant. Je ne regrette rien.
Non. 25 ans?
25 ans. Juste en arrière, on voit Montagne. Tu disais, parlais tantôt du Nord. On voit Montagne juste là, en arrière de Montriquet. Ouais.
Tu étais dans cette montagne-là?
Ben, ça fait partie de la base qu'on voit là-bas, là. Fait que c'est direct ça. Là. Ben, j'ai pas passé ma vie à Valcartier.
Ouais.
Mais j'ai passé le restant et la fin de ma carrière. J'ai commencé vraiment à Valcartier et j'ai terminé à Valcartier. C'est pour ça que je suis encore implanté à Sainte-Catherine de Valcartier.
Il y a une époque, Fred, où on nous raconte dans les livres d'histoire à l'école que tu étais obligé à 14, 15, 16 ans, tu étais enrôlé puis tu allais faire la guerre. Puis, qu'est-ce qui fait que tu choisis de rentrer dans l'armée?
Mais moi, ça avait commencé en 85. Il y avait quand même un exercice de bas du fleuve à Rimouski. Bien, j'étais un natif de Rimouski. Et puis, j'avais vu des trucs d'armée passer, puis ça m'avait déjà inspiré. Et voilà, puis après ça, j'ai rentré dans les cadets, puis j'ai développé. Puis, moi, dire que mon secondaire, c'était une partie difficile de ma vie pour me rendre là où je voulais aller. Fait que je l'ai fait quand même.
Mais c'était l'action qui t'intéressait? C'était de pouvoir partir à l'extérieur?
Moi, dire que mon garçon, je ne fais pas un coming out parce qu'il le sait déjà, mais il veut rentrer dans les forces.
Okay.
Il veut suivre, mais un peu. Bien, j'ai dit, fais ta carrière. Moi, j'ai fait la mienne. Mais j'ai dit, regarde, il dit, moi, papa, dans la vie, je joue au hockey, je veux voyager, je veux sauter en parachute, puis je veux avoir de l'argent. Bon, je lui ai dit, regarde, écoute, c'est à peu près le centre de recrutement qui pourrait t'offrir ça. Parce que je t'annonce que, oui, avec les Diablos, ils performent très bien, mais il ne fera probablement pas la Ligue nationale. Alors que ça, à base, ben, toutes les unités ont une ligue de hockey, puis c'est quand même du bon calibre. Fait que j'ai dit, tu vas avoir du fun, tu vas te payer, tu vas voyager, puis tu vas, oui, sauter en parachute.
Fait que c'était le fait de bouger, toi, l'école, ça t'intéressait pas. Fait que tu te dis, tiens, je veux faire une carrière militaire.
Moi, je t'aurais dit dans ma tête en partant, okay, au point de départ.
Y avait-tu un métier que tu voulais faire en particulier?
Je me souviens, j'avais été au centre de recrutement, et puis il y avait des journaux qu'on appelait à cette heure, c'est la Tsum, d'attente, c'était Sentinelle. Et puis, il y avait des parachutistes. Puis j'avais arrivé au centre de recrutement, voir le sergent recruteur, j'ai dit, moi, je veux être ça. Mais là, il me regarde, il dit, ça marche pas tout à fait
ça
comme
ça.
Ça
marche pas de main, non?
Il dit, faut que tu trouves un métier, puis après ça, tu vas faire ton cours de parachutiste, et puis là, tu vas devenir parachutiste. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai rentré comme un fantassin éventuellement, puis c'est le métier qui me recherchait, qui me trouvait, que je trouvais le plus intéressant pour moi.
Fait que c'était le Royal 22?
Royal 22e. J'ai commencé comme sous-officier, et puis je me suis rendu au grade d'adjudant. Ensuite de ça, on m'a offert le transfert officier pour aller prendre la compagnie de reconnaissance afghane.
Ouais.
Puis c'est de là que j'ai transféré officier. Puis,
quand tu deviens officier, faut-tu que tu retournes à l'école? T'as-tu un retour à l'école?
Moi, ça me prenait mon secondaire 5 pour commencer.
Ouais.
Les officiers, naturellement, de base, ils vont passer par le collège militaire.
Exact.
Et puis, il y a quand même quelques programmes, mais le programme d'aller chercher un membre du rang et d'aller chercher, exemple, un bagage d'expérience de 15 ans, ouais, et de l'apporter au sein d'un groupe d'officiers plus jeunes, ça peut apporter un certain équilibre des fois.
Ouais. C'est aussi valable que l'école, l'expérience des fois?
Ben, je pense que l'école de vie, t'as un peu plus des fois. C'est comme, étudier les maisons longues, etc. C'était correct. Là,
t'as-tu trouvé ça tough? Parce que, tu sais, j'ai des chums, moi, qui sont dans l'armée canadienne. J'ai des chums retraités. Puis ouais, le 22, là, des fois, ils ressortent maganés physiquement. De
on, est tout, on est tous démolis après 25 ans. Je veux dire, ça vient avec, à part quelqu'un qui a réussi à avoir une carrière tranquille. Je veux dire, mais j'en connais pas tant, là, moi, là, qui ont sorti, puis qui... Quelqu'un qui n'a pas un doigt foulé ou un épaule déringée, ou moi, dans mon cas, c'est généralisé, mais je veux dire...
Puis la discipline, t'avais-tu un problème avec la discipline au départ?
Pas du tout. Non, comme je disais, moi, à partir de 13 ans, j'étais déjà dans un cadif. Les cheveux longs, okay, ça ne m'est jamais arrivé.
Non.
T'avais déjà un cadre qui était très établi.
J'avais un cadre très établi, puis j'avais quand même donné des cours de leadership dans un cadif. Ouais. Ça n'a pas été du nouveau pour moi lors du commandement, etc. Et puis, non, c'est une carrière... Si je rajoute mes 5 ans de cadet, plus, tu sais, j'ai porté le béret pendant 30 ans, fait que c'est quand même quelque chose.
On va parler des casques bleus, mais
oui,
dans ta carrière militaire, oui, avant de faire les casques bleus, t'as-tu été en mission?
Moi, je suis rentré en 88,
ouais,
à partir de là. Mais là, c'était drôle hier, parce que hier, ça faisait 36 ans que je partais pour l'Europe. Je partais pour 4 ans pour en Allemagne. Là, hier, j'étais là, OK, je suis vraiment vieux. Là.
prise de conscience.
Mais non, j'ai fait mes cours de recrue à Saint-Jean, après ça, à Valcartier, cours de métier. Puis à partir de Valcartier, je suis monté en Europe direct pour 4 ans.
OK, mais là, après ça, c'est Bosnie qui commençait?
Pas tant que ça tout de suite, parce que je suis parti à la guerre du Golfe en 91. Fait que okay, la première guerre du Golfe, il y en a eu deux. Fait que la première, j'étais là, au Qatar. Puis quand on est revenu tout de suite, ça a commencé à arriver, l'histoire
de
l'ex-Yougoslavie. Ouais. Parce que c'est juste la Bosnie, c'est la Croatie, etc.
Fait que toi, est-ce que tu as fait ces trois missions-là successives ou tu as eu un break entre les trois?
J'avais un roulement peut-être de 3 ans entre chaque, peut-être environ.
OK.
Mais quand on calcule que déjà en partant, c'est quasiment un an d'entraînement avant de partir. Fait que t'es pas souvent chez vous.
C'est
là,
ça, j'allais demander. Tu sais, entre c'est une drôle de question, dans le fond, mais entre les missions, qu'est-ce qui se passe?
Je te dirais qu'il y a un ad break certain quand on revient. Ben, un ad break, ce qui veut dire que tu seras pas déployé. Mais c'est certain que si à Saint-Jean, l'eau déborde, il faut aller faire des travaux, on va y aller. Là, mais ouais, ça reste dans la communauté. Là, tu ne dépasses pas là, les... À part si tu vas faire des cours comme à Gagetown, c'est certain que des cours de commandement, des cours de perfectionnement, il faut que tu les fasses, puis c'est important.
Mais sinon, tu ne dépasses pas les frontières pendant
sinon, tu
ne
dépasses
an,
pas les frontières, tu restes à peu près un an, puis après ça, l'entraînement commence pour la mission. Puis, d'habitude, ça commence pas mal, mettons, l'ouest, le centre, l'est. Puis là, ça se bouscule comme ça.
C'est une drôle de question, là, parce que moi, la seule référence que j'ai, c'est les films, là. Fait que
ouais, vas-y.
Je me posais beaucoup de questions sur les films, Fred. Les entraînements, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mettons que tu nous le fais vivre un peu. Vous faites quoi dans les entraînements? C'est direct à la base ici?
Oui, bien, ça se passe essentiellement ici, puis essentiellement après ça, par la suite, exemple, à Wynnette. Mais je pense qu'à Wynnette, à cette heure, ça se déploie un petit peu moins. Je pense que l'entraînement, à cette heure, ils se préparent, les gars vont en Lituanie, ils entraînent l'armée là-bas, etc. Tu vois, c'est pas trop loin de l'Ukraine, mais on n'est pas encore en Ukraine, on est encore en Lituanie. Mais si tu veux qu'on parle juste de l'entraînement, ça commence à partir de la base du soldat individuellement, le maniement d'armes, les tirs, les étapes de tir, etc. Ensuite, ça arrive au niveau de la section. Fait qu'une section, c'est environ 10 personnes. Après ça, un peloton 30, une compagnie 100, un bataillon. Après ça, c'est un groupement tactique qui se déploie au complet, ça veut dire... Il y a plusieurs corps de métier, exemple l'artillerie, les blindés, les ingénieurs. Là, tout le monde est englobé pour éventuellement être déployé.
Est-ce que vous êtes préparé à la guerre? T'sais, quand tu es rendu en théâtre de guerre, là, quand tu entends un missile tomber, moi, c'est ce qui m'avait marqué des vétérans qui me jasaient. Ils disaient, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bruit quand ça tombe. T'sais, est-ce que vous êtes bien préparé à justement vivre ce genre de choses-là pour pas qu'un, tu sais, pour que le F que vous choisissiez en théâtre de guerre, c'est-à-dire figer ou fuir, tu sais, ce soit exclu, faut vraiment foncer. Est-ce que vous êtes bien préparé?
De nos jours, l'entraînement est vraiment réaliste. je dirais que oui, on est capable de pousser jusqu'au moment là, que ça, ça claque quasiment, puis tu dis, OK, ça peut ressembler à ça.
Okay.
On essaye dans les chantiers d'aller le plus réel possible, puis d'accoter la personne, puis le mettre en situation, et de mettre des blessés au travers de ça, qui sont vraiment, à cette heure, on est capable de simuler des blessures, puis là, tu sais, puis là, mettre avec l'état de choc un peu au travers de ça, puis les bombes qui tombent. Mais c'est pas des vrais morts, naturellement, c'est du C4, etc.
T'as-tu la chienne?
La chienne, je l'ai eue à quelques reprises, certains. J'ai pas mal toujours été en contrôle, à part un certain 14 juin, que dans ma tête, ça se bousculait pas mal en 2009. Mais j'étais le patron de la gang, fait que j'avais pas le droit de le laisser paraître. Puis dans ma tête, ça s'est bousculé, mais soudainement, on a repris le contrôle, puis... C'est un travail d'équipe, d'Alphonse.
Mais
c'est normal d'avoir peur.
Oh, ben oui, ben oui. Mais si t'as pas peur,
c'est un danger.
Chaque saut en parachute que j'ai fait, là, j'avais peur. Si t'as pas peur, monte pas dans l'avion. Ouais. Là,
c'est toi qui pliais ton parachute?
Non, ça, c'était pas moi. Civilement parlant, je le pliais moi-même.
Ouais.
Mais non, dans l'armée, il y a des riggers qu'on appelle.
Tu demandes tout le temps le gars qui plie ton parachute. Là. Quel genre de soirée il a vécu la veille?
Mais des petits trips fuckés qu'on a fait, c'est qu'on, avant de s'habiller, on changeait de parachute. Fait que là, on disait. Alors, mais ça, c'était pour se donner un petit peu de misère.
On va sûrement parler de santé mentale parce que ça vient avec tout ça. Là, souvent, quand on parle des militaires, on parle de traumatisme, de choc post-traumatique. On a reçu, Fred, il y a quelques semaines, moi maintenant, une travailleuse sociale en métier d'urgence qui nous a dit quelque chose en fin d'entrevue, moi, qui m'a marqué. Elle nous a dit qu'il fallait arrêter de poser des questions aux policiers, aux militaires, aux gens qui font face à des images qui sont traumatisantes, à des situations qui sont traumatisantes parce que ça vous replongeait, veut pas, là-dedans, tu sais. Puis elle travaille beaucoup avec ces gens-là qui sont en gros choc post-traumatique. Est-ce que c'est dur pour toi de replonger dans ces souvenirs-là, des fois?
Je te dirais que le cheminement, on va parler de moi, là.
Oui, oui, oui.
Moi, mon cheminement, en 2009, ça a mal été. Après ça, tombé un peu, on va dire, une dépression. On va dire, tu sais, pas le même homme que j'étais avant, là.
Mm-hmm.
Et puis, à partir de 2013, elle m'a mené ma femme à côté de la mur, puis elle a dit, là, tu te fais soigner, ou ben donc...
Terminé.
Elle dégage.
Ouais, c'est ça, là. Puis c'était correct. Non, mais tu sais, Audrey, elle m'a toujours appuyé, puis c'est Audrey, ma femme aussi.
OK.
Ouais, c'est pour ça que je m'excuse, là.
Non.
Fait que, non, mais c'est ça. Meilleur. Mais je dis, j'ai été bien suivi. De là, l'expérience d'avoir écrit le livre que je t'ai envoyé, puis je dis, ça, c'était un cheminement très thérapeutique. Les 50 premières pages, c'est l'Afghanistan. Puis là, à un moment donné, j'ai fini. J'ai dit, ah, là, qu'est-ce que tu me demandais, là? Elle a dit, bon, il faut continuer. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là? Fait que là, j'ai recommencé à ma naissance, puis je me suis rendu à 5 ans. Puis, je te dirais que les 4 dernières journées, avant que j'ai fini mon livre, je me suis enfermé dans une chambre d'hôtel 4 jours, puis j'ai dit, c'est là que j'ai fini.
Je voulais
le terminer avant mes 50 ans.
Fait que pour toi, c'est thérapeutique d'en parler.
C'était très thérapeutique, je veux dire, mais aujourd'hui, j'ai appris à prendre mes distances. Je sais où ce que ça brûle, puis je sais où pas me brûler.
Okay.
Costco, c'est pas fait pour moi.
OK. Arrête pour vrai.
Oui, là.
Ça grouille trop.
Mais je le sais, puis avec les psychiatres et les psychologues, oui, c'est vrai, ils essayaient de me replonger. Vas-y un petit peu, va le parking, va le... Non, je me dis, j'ai dit, qu'est-ce que je m'appelle, excuse-moi, mon langage. Mais j'ai dit, ça m'intéresse pas pantoute, j'ai pas besoin...
Puis, oui, j'ai en plein jour, quand il n'y a pas un chat, ça fait un job
aussi. Tu peux choisir tes moments, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas rien qui m'oublie, surtout qu'à la retraite comme ça, pourquoi aller plus être dans le trouble quand c'est pas nécessaire?
Parce que tes yeux sont constamment en train de surveiller les portes de sortie, les individus qui pourraient être louches, essayer de contrôler un peu les gens qui passent autour de toi.
Mais nous autres, ce qu'on parlait des indicateurs de combat, c'était des choses que tu te regardes, exemple, puis tu passes la route, et puis tu vois un pont. C'est niaiseux, là, c'est un pont. Moi, dans ma tête, en Afghanistan, par exemple, je faisais une allusion à ce pont-là, il y a peut-être de quoi en dessous, tatatata.
Ouais.
Fait qu'aujourd'hui, je revois ça encore, mais c'est beaucoup moins pire, puis j'ai pas peur de passer sur le pont.
Okay.
Tu sais, je veux dire, puis de problème. Sauf que si je roule ça à 20, puis que je vois des oiseaux qui tournent en rond dans le coin, sur le bord du chemin, là, je me dis, il y a quoi de mort là? Mais c'est pas un mort.
Tu sais, c'est des associations.
Tu sais, c'est sûrement une bête qui est là.
Ouais,
puis là fait que le déclic, il se fait en pas long. Puis j'ai dissocié la dissociation. Ouais, j'en ai fait beaucoup là, de ça.
Ouais.
Aujourd'hui, ça s'estompe tranquillement. Ce que je comprends pas encore, c'est que je rêve encore à l'armée. Fait que là, je me dis, pourquoi j'ai pas rêvé à ce que j'ai fait hier? T'sais, je dis, c'est pas quelque chose qui est supposé me revenir encore après 13 ans là, de, que je ne suis plus dans l'armée. Là.
Ouais,
mais c'est, ça reste, ouais. Mais c'est tout le temps. Comme cette nuit, mon rêve, c'était niaiseux, mais c'était j'étais pas en contrôle d'une situation X. Mais à l'aide des psychiatres, j'ai compris que c'était probablement tout le temps le même pattern de rêve qui revenait du moment que je te parlais tantôt, j'avais pas de contrôle.
Tu as fait plusieurs missions à travers le monde. Tu as vu à quel point la guerre avait des impacts particuliers sur la population qui était en place. Quand tu revenais ici, étais-tu capable de rationaliser les choses en disant « OK, bon, là, c'est les petits Québécois qui se plaignent là, pour rien. Faut que je me remette comme dans ma tête en tant que Québécois. » Parce que tu en as vu des choses ignobles. T'sais. Puis quand tu reviens ici, ben, les gens, on se plaint pour rien. Tu devais faire ce lien-là souvent.
Moi, je pense que tout ce qui se passe, exemple, à Kiev, puis en Palestine, puis les bombes qui tombent, je pense qu'on en parle plus ici que les autres qui en parlent là-bas. Parce que les autres, ils tombent une bombe, c'est normal.
C'est un lundi.
C'est un lundi. C'est tranquille aujourd'hui.
C'est tranquille.
Il n'est pas tombé deux, il en a tombé une. Je sais qu'à mon retour de Bosnie, parce qu'on était tellement... on faisait une fixation sur les champs de mines qu'il y avait là-bas.
Ouais.
Les premières semaines, c'était pas évident de juste juste le fait d'embarquer sur le gazon, de dire « Hey, t'as pas eu, là? » Là, un moment donné, je me promène sur le terrain de golf, puis je pense pas à ça pas tout. Non. Mais je te dirais que les premières semaines, oui, c'est... Il y a l'entraînement qui fait qu'on build certaines conditions à être conditionné pour aller là-bas. Mais quand tu reviens, il y a peut-être pas... Le clash, il n'y a pas de décompression. Il y en a une petite décompression quand on revenait d'Afghanistan. C'est intéressant. On rencontrait les psychiatres le jour, le matin, l'après-midi, on a la piscine, on prenait quelques bières.
C'est sur une île, ça? Hein?
Oui, c'est à Chypre. Là, si on veut revenir aux Nations Unies, justement, Chypre, l'armée canadienne était là longtemps.
Ben oui.
Et puis, ça a brossé en 1974 énormément. Le général Foran, il était là-bas, puis était capitaine à l'époque. Puis aujourd'hui, c'est une légende du régiment. Mais à partir de là, 1974, ça a brossé. Mais dans les années 80, l'île de Chypre, les Canadiens étaient encore là sur le mandat des Nations Unies.
Oui.
Parce que dans le temps, au début, ils ont été entre les Grecs et les Turcs. Puis là, et voilà. Et puis, c'est devenu, je pense, quasiment le club med de l'armée, elle est là. Oui,
exact. Okay. C'est ce que les gars disaient. Oui, il y avait
le
plaisir.
Chip, les gars revenaient casser, ils revenaient pas une scène dans les poches. Là. Alors, c'est vrai. Là. Non, c'est vraiment vrai. Mais c'est pour ça que peut-être ça nous a apporté que quand on est parti en Bosnie en 92, on partait de l'Allemagne, on mettait tout notre armement dans les trains, puis on est parti de l'art en Allemagne, puis tchouk-tchouk, ça a pris 4 jours pour se rendre en Croatie. Mm. Quand on est arrivé en Croatie, je pense qu'on n'était pas prêt mentalement à fesser ce qu'on a fessé comme mur. Là.
Ouais.
Nous autres, dans notre tête, là, c'était Chip. Là. Non, c'est pas Chip. Là.
On est
ailleurs. Là.
Les relations avec les frères d'armes, j'imagine qu'à un moment donné, tu fais qu'un veut pas là, à être tout le temps ensemble, à vivre des affaires qui sont relativement traumatisantes. Tu as encore des contacts?
Moi, de base, j'étais un gars qui entretient moins bien ses amis, peut-être. Je suis pas le gars qui va poigner le téléphone, puis etc. Sauf que, oui, il y a des gens à qui on fait des petits checks de temps en temps, puis j'ai encore beaucoup de mes soldats qui me rappellent, puis qui me disent des fois, « Ah, Fred, je file pas, tatati, tatata. » Puis là, tu sais, oui, OK, c'est correct, mais tu sais, je suis plus capitaine, je suis rendu Fred, là, tu sais.
Mm-hmm.
Mais je suis capable de, avec mon bagage d'expérience puis mon bagage thérapeutique, je suis capable aujourd'hui de continuer à aider un peu.
Mais tu as toujours été un leader naturel aussi.
Peut-être, mais des fois, c'est le fun de mettre son sac à dos à terre et de dire, écoute, c'est lourd ce que tu me fais vivre. Mmh. Là, mais...
Les casques bleus sont arrivés quand dans ta vie?
92, je me rappelle, je ne sais pas si faire une pause, parce que ça peut être long ce que je vais dire, là. Mais comme je t'ai dit, on était assis dans le théâtre, puis le commandant d'unité nous est arrivé avec un béret bleu sur la tête, puis on dirait aussi qu'il s'en va, lui, avec son béret bleu, un matin. Puis il nous dit, on s'en va en Yougoslavie. Là, on s'en va en Yougoslavie. Okay. Moi, j'arrivais de l'Irak, là, tu sais, j'arrivais de la guerre du Golfe.
Ouais.
Fait que là, il dit, OK, on repart, il n'y a pas de problème. Le 3 ans de break n'existait pas, là. Puis on est monté en Bosnie, puis le mandat des Nations Unies, il est tellement... je dirais pas dilué, mais il est tellement... Les règles d'engagement sont tellement pas claires que tu n'en as pas de mandat.
Est-ce que j'ai entendu, Fred, là, c'est que quand tu es un casque bleu, bon, on te donne une mission que tu dois respecter, faire tes affaires, mais s'il y a un crime qui est commis devant toi, l'autre côté de la rue...
Tu as les deux mains attachées.
Tu ne peux absolument rien faire, aussi cruel soit le crime qui se passe.
à moins d'être visé personnellement, là, t'as pas grande option.
Fait que t'as pas de règles d'engage.
T'as les règles d'engagement, sévères. Mais elles sont tellement sévères que ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, ce qui s'est passé, exemple, à Sarajevo en 92, là, alors donne-moi le même mandat que j'avais en 2009 en Afghanistan, puis ça dure 5 minutes.
C'est pas... T'aurais pas été long, hein?
Ça aurait pas été long pas tout.
Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une drôle de question, là. C'est...
Ben, en Bosnie, en Yougoslavie, ce qui a commencé, c'est qu'il y avait une zone de démilitarisation. On est entre les deux. Là, on disait, nous autres, là, moi, les Nations Unies, la manière que je vois ça, c'est le premier... Non, c'est le deuxième. Exemple, on se sépare, moi et toi, OK?
OK.
Première affaire, on dit, gars, je t'aime plus, on se laisse, les enfants, on s'organise. Bon, ça, c'est la première étape facile, puis il n'y a pas de chicane.
Généralement,
OK? Mais si tu as besoin d'un petit support qui dit OK, à gauche puis à droite, on va aller voir un médiateur. Puis le médiateur, lui, va OK, regarder, on va voir les options. Moi, le médiateur, je vois ça un peu comme les Nations Unies.
OK.
Tu sais, on se mente les deux, puis on dit OK, vous autres, là, vous vous aimez plus, mais c'est correct, mais tu sais, fais pas de folie, là. Là, de temps en temps, tu reçois une claque sur la gueule, pareil, parce que c'est pas facile une séparation. Fait que c'est un peu ça. Puis là, quand le temps embarque, ben là, ça, c'est l'avocat qui dit « Hey, tu vois, là, c'est terminé, là.
» L'image est belle.
Je fais longtemps que je médite mon image, là, puis ma phrase était déjà préétablie. Mais mais là...
Si j'y avais pensé, pour être clair.
Mais tantôt, tout ce que t'as fait en l'entrée de show, j'ai dit « OK, ça, j'avais essayé de comprendre ça, puis m'en rappeler. » Là, finalement, tu l'as dit, fait que j'ai pas besoin de le dire.
Fait que les casques bleus, c'est on est là pour appliquer les cessez-le-feu.
Appliquer les cessez-le-feu, le maintien humanitaire, la sécurité internationale.
Désarmer les combattants aussi?
Je te dirais que ça sort du mandat. Ouais. C'est pas un hasard qu'en 92, on était là comme béret bleu. Puis ça a duré jusqu'en 95. Puis là, c'est le Kosovo, les États-Unis qui s'en ont mêlés. Parce que les États-Unis, on sait qu'ils sont dans l'OTAN depuis... Le début en 45, si je ne me trompe pas. Mais ils s'en mêlent pas trop. Fait quand ils s'en mêlent, c'est genre le Kosovo. Bang, on fait une grosse entrée. Mais ça avait juste plus de sens d'être en Yougoslavie puis sur un mandat des Nations Unies. C'est pour ça qu'en 96, on a rentré sur le mandat de l'OTAN. Là, ça a changé les règles d'engagement, ça a changé la dynamique. Là, on avait plus de pouvoir. Puis là, c'était le I-4, qu'on appelait l'Implantation Force, ou quelque chose. Puis c'était la force d'implantation. Puis ça a duré. Là, on a commencé à voir l'évolution. Puis quand j'y retournais en 1999, c'était rendu la S-4, qui était la force de stabilisation. Fait là, on commençait déjà à voir les écoles recommencer, puis la vie reprendre dans les rues. Puis là, on a dit, OK, là, on a servi à quoi?
Tu préférais quoi, toi? Être casque bleu ou tes autres missions militaires?
Casque bleu, je n'étais tellement pas préparé à ça. Là. Je te dis, ça a commencé avec le commandant qui a dit « on part ». Puis on est parti. Puis je pense à l'époque que mon Kodak Delco était plus important que mon arme. Parce qu'on disait « oui, que c'est ça, là, on prend des photos ». Puis on était sur le mode Chypre. Puis on a quand même fait un mur à Sarajevo. Là. C'était quelque chose, mais d'avoir les mains liées... On se faisait carrément tirer dessus. On était entre les deux factions, mais entre les trois, parce que des fois, les Serbes chicanaient avec les Croates, à un moment donné, chicanaient, ils étaient alliés avec les musulmans. Mais là, à un moment donné, les musulmans se chicanaient pour une usine de chocolat qui était au bord de la rue.
Fait que t'as préféré tes missions militaires?
Ben moi, j'ai aimé, personnellement, c'est certain que mon gros bagage d'expérience que j'ai eu... c'était à Kandahar en 2009, alors que j'étais avec les forces britanniques, puis on était un petit groupe de Canadiens, puis je mentorais une compagnie d'armée afghane. J'ai dit, ça, c'est le summum de ce que quelqu'un dans l'armée, je pense, veut faire, là. D'avoir les deux pieds dans le trouble, puis si je me fais tirer dessus, ça veut dire que j'ai le droit de te tirer dessus.
Oui, c'est ça.
Mais c'est plus la même dynamique.
Ouais, je veux rester avec les casques bleus.
Vas-y, là, vas-y.
Ce qu'on m'a dit, c'est que vous deviez être sûr et certain que la balle était pour vous pour engager le combat quand vous étiez casque bleu?
C'est une question de règle d'engagement. On va dire, exemple, la règle 401. 401, c'est si quelqu'un te tire, tu as le droit de répliquer.
Okay.
Mais si quelqu'un tire, Audrey, par exemple, moi, je peux pas répliquer pour Audrey.
Oh!
Fait que t'imagines...
C'est ça, c'est la règle, exemple 401.
Fait que tu peux pas protéger tes frères d'armes.
Non, ça prend, mettons, exemple, la 402 pour le faire.
Qui est?
Qui est de protéger la personne à côté de toi ou de m'engager dans quelqu'un qui se ferait, mettons, battre dans la rue, j'aurais le droit. Mais tant que tu es sur la 401, tu n'as pas le droit d'intervenir.
Exact. Fait que ce que les gars me disaient, mais, qui ont été casque bleu...
401, c'est peut-être pas la vraie histoire, non, là, mais...
Mais ce que les gars me disaient qui étaient casque bleu, c'est le sentiment d'impuissance, parfois.
C'est le gros sentiment, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées aujourd'hui à cause de
exact.
Ça.
Exact.
Je veux dire... Là, c'est certain d'avoir les mains liées. C'est incompréhensible. Exemple, on passait dans les rues, et puis on voyait une maison qui avait une poule à tête coupée, clouée dans la porte.
Oui.
Ça veut dire, demain matin, si t'es encore là, ta maison va sauter.
Quelle
sorte de monde de fou. Puis ça a toujours été un monde. Toutes les chicanes proviennent de la religion, la plupart du temps, ce qui fait de moi un gars athée aujourd'hui.
OK? très assumé.
Très assumé, là. Je vais là à ton mariage, même si tu veux que j'enlève mes sandales puis je me mette à genoux sur un tapis, ça me dérange pas s'il y a partait après, là. Mais sinon, non, j'essaie de me tenir loin de tout ce qui est religion.
Puis comment ça fonctionnait là-bas? Vous étiez au travers de la population? Vous dormiez où quand vous étiez casque bleu?
Casque bleu, on était vraiment dans une zone de délimitarisation, vraiment en deux. On appelait ça la ZOS dans le temps.
Ouais.
On était, mettons, 200 mètres à gauche, 200 mètres à droite. Moi, j'étais en plein centre.
Puis vous dormiez là?
On dormait là. On dormait sur les camps. Il y avait plusieurs petits camps. Puis il y avait des gros camps de base qui nous supportaient. Et puis, on était vraiment là... T'sais, on les voyait là. Puis il y en a qui, à un moment donné, quand ça a avancé, il y en a qui pouvaient traverser, parce qu'on s'entend qu'il y avait des sœurs et des frères qui étaient dans le même village. Hein. Dans le même rang, rang 3, ouais. rang 4. Puis
Est-ce qu'on vous respectait en tant que casque bleu dans ces pays-là quand vous tentiez de maintenir la paix?
C'était un peu la même game qu'avec les talibans. Quand on arrivait entre les deux, on avait le respect parce que ça se tirait moins, et puis c'était... Il y avait une zone de paix entre les deux factions, ou entre les deux groupes de on s'entend, les Croates, les Serbes, etc. Est-ce qu'on était respecté? Oui, mais le méchant ne nous respectait pas, c'est certain. Là, je veux dire,
il continuait à faire ses affaires.
Ceux-là qui nous aimaient ne nous seraient pas dessus. Là.
Non, c'est ça. Tu as rencontré les talibans?
En Afghanistan?
Oui.
On peut pas dire qu'on en a vu un parce que il n'existe pas. Ça n'existe pas, un taliban.
Ça n'existe pas. Ben, à la télé, ça existe, là?
Oui, on les voit. Mais quand tu es sur le terrain, moi, mon commandant afghan que je mentorais, j'ai dit, sont où les talibans? Il dit, they fly like a bird. Tu sais, ils s'envolent comme des oiseaux. Je veux dire, la personne qui nous tirait dessus, nous autres, on avançait pour aller le chercher. Mais, par exemple, si on faisait tomber de l'artillerie ou du mortier, t'arrivais dans un campement, bien, crime, il n'y avait plus rien.
Il était parti.
Il était parti. Vous êtes où? OK, il y a une petite tache de sang à terre, mais ils sont où? Les fly like a bird.
Ils se sauvaient rapidement.
Ils se sauvaient comme des oiseaux.
Les technologies, est-ce que... Bon, t'as eu, quoi, presque 30 ans, là, carrière militaire, casque bleu et tout ça. Les technologies, dans ces décennies-là, ont changé comme pas possible.
Je te dis... Sarajevo, si je compare à 2009, comment on était équipé, comment on avait tout notre stock, je compare Sarajevo qu'on était en Gogun, puis qu'en 2009, on était des G.I. Joe.
Ah ouais?
Non, j'avais tout. Puis les gars, il y avait des gars qui étaient jaloux de moi, qui disaient « Crime, Fred, toi, t'es au combat tout le temps avec ta gang. Nous autres, on est plus en arrière, peut-être. Mais toi, t'as tout. T'as un drone, t'as ci, t'as ça. » Oui, on l'avait, puis... Ça facilitait beaucoup la donnée.
T'as-tu l'impression que dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de militaires au sol?
Je suis pas inquiet pour mon garçon s'y rendre dans l'armée.
Ah ouais. Oh, ouais?
Non.
Je me posais cette question-là, je me demandais si je te la demandais.
La question mérite d'être posée.
Ça va être des guerres technologiques.
Je pense beaucoup plus.
Ouais.
La guerre pour entraîner... Le Canada va toujours avoir besoin d'une armée pour y sortir du trouble quand il arrive un cataclysme et entraîner les autres armées comme on fait en Lituanie présentement. Mais je vois pas mon garçon sautant sur d'une mine les prochaines années. C'est pas
fait avec partie. Les technologies, ça va être...
Non, il va arriver de quoi qu'il va tomber là avec les soldats rentrent là. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, dans l'armée, il manque présentement 15 000 personnes. C'est un peu comme le reflet de la société qui est une pénurie de main-d'œuvre. Écoute, il y en a beaucoup qui ont libéré suite à l'Afghanistan, qui ont rentré dans l'armée en espérant vivre qu'est-ce qu'on vivait là-bas. Puis ça a fait pout, puis qu'il n'y a plus d'Afghanistan. Puis moi, on les dit, bon, mais je me suis pas enrôlé, moi, pour aller faire des poches de sable au Saguenay. Là. Je me suis enrôlé pour aller au combat. Il n'avait plus de combat, puis ça fait longtemps qu'il n'a plus de combat. Ça a fini pas mal.
Chose,
non, non, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas personne là, qui veut aller se battre là-bas, malgré que tu t'enroules pour ça. Mais quand tu le vis, tu te dis, ah, t'as peur, c'est quoi ça?
Puis. Ouais. Est-ce que quand il arrive des déluges, là, ben, on parlait du déluge du Saguenay, là, mais quand il y a des déluges comme ça, chaque année, il y a des endroits où ça brasse au Québec, puis on demande tout le temps aux politiciens, nous autres, en tant que médias, bon, pourquoi vous ne demandez pas l'intervention de l'armée? Il semblerait que c'est hyper compliqué là, faire intervenir l'armée, parce que là, c'est provincial, faut passer une demande au fédéral, puis là, c'est le politique qui doit faire descendre ça pour qu'après ça, le militaire prenne ça, puis ils prennent leur propre décision à savoir s'ils vont ou ils vont pas. Vous autres, sur le terrain, dans le 22, là, vous devez juste rêver des fois d'aller aider votre population. Là.
C'est certain, mais si la base de notre quartier est en entraînement pour être déployée, exemple à Lutanie, tu peux pas les sortir de l'entraînement.
C'est Lituanie
dire...
ou Lutanie?
La Lutanie. L'Lutanie, je pense que
c'est pas l'Lutanie. OK, je pensais
que
c'était
l'Lutanie. Mais peut-être que c'est moi qui se trompe aussi, là, parce que quand même des lettres qui ne se ressemblent pas. Mais, non, mais tu sais, si l'armée, présentement, mettons, à Val-Cartier, s'entraîne pour partir, être déployé, c'est encore maudit d'aller chercher et dire, regarde, on va enlever un mois d'entraînement, puis vous allez aller. Mais moi personnellement, pour l'avoir vécu, je pense que la crise du Verdelang en 97, c'était le pire moment que j'ai travaillé, la fois que j'ai travaillé le plus fort de ma vie. Puis que ça n'avait pas de bon sens. Là. On était dans des conditions terribles. Puis la population, la population montréalaise ne nous appréciait pas tant que ça. Là. Je veux dire, ils ont commencé à nous apprécier quand on est rentré dans les régions. Puis là, ils voyaient le travail. Puis là tu voyais des fois la petite tasse à café qui arrivait dans les maisons. Puis une petite pizza.
Oui.
Mais tout mon temps à Montréal, moi, t'as dit, j'ai détesté ça. Là. C'était vraiment pas le fun.
Non, mais c'est une autre communauté aussi. Là.
Je veux pas embarquer dans mon petit côté athée. Là.
Non, mais c'est une autre communauté dans le sens
reste
où...
Je avec mes convictions.
Ils sont un petit peu plus à gauche à Montréal. Les autres, ils ont l'impression que les militaires, c'est
ah, c'est
moi, négatif. Là. Tandis qu'à Québec, on est collé sur la base militaire, puis on a la chance de vous côtoyer, puis on connaît vos missions, on en parle dans les médias. Fait que je pense que la reconnaissance envers nos militaires est plus présente à Québec qu'à Montréal.
Il y a tellement de monde. Non, mais je veux dire, même. C'est parce que là, on a le nez dedans. Comme tu dis, là, tu sais, tu vois Henri IV, tu vois 3-4 chars de l'armée, puis.
D'habitude, quand je les vois, c'est parce qu'ils sont en panne. Hein?
Je te dirais qu'avec la nouvelle technologie qu'on a, il y en a de moins en moins en panne.
Hey, tabarouette.
Ça a déjà. M. Arthur a eu du fun.
Ça me faisait halluciner, Audrey. Je restais à Shannon au tournant des années, mettons, 2002, 2003, 2004. Puis le nombre de véhicules militaires que je voyais en panne sur le bord de l'autoroute, ça me faisait.
C'était une risée. Je disais qu'on montait pas Henri IV. Non, c'est pas.
C'est pratique, cette affaire-là.
C'était pas des menteries. Là. Mais là, je vous le dis, là, avec l'arrivée de l'Afghanistan, ça a tout changé. Le mode de l'Afghanistan, les nouveaux véhicules qui ont rentré. Puis je te dirais même qu'aujourd'hui, j'ai quasiment hâte cet été. Il va sûrement avoir une journée porte ouverte. Puis je vais aller faire un tour avec mon garçon. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de véhicules, beaucoup d'armements que je connais même plus. Je veux dire,
tellement ça a changé.
Ben, tu sais, moi, mon véhicule que j'avais en Bosnie, ben, c'est rendu un monument quand on le voit à la manne.
Là, y a-tu ta photo à côté, noir et blanc?
Ben, pourrait quasiment. Puis, la vie va tellement, tellement vite, ça n'a pas de sens. Puis là, tu dis, crime, je suis rendu un monument. Tu sais, je ne rends pas moi le monument, mais ce que je me servais est rendu des monuments.
Ta blonde peut dire ça. Mon amoureux, c'est un monument.
Mais, je veux dire, quand on rentre, exemple, au 3e bataillon dans le quartier, on rentre dedans, puis il y a un petit mur, un petit wall of fame.
Ouais.
Puis, des fois, je pars juste pour aller m'acheter un ancien gilet ou une tasse à café, tu sais, ou vers un petit magasin qu'il y a là. Puis je regarde mes photos qui sont là à gauche puis à droite. Puis le commun des mortels qui passe là, aucune maudite idée, c'est qui est sa photo. Là.
Non.
Mais c'est bien correct. Je veux dire, comme je disais à mon garçon, fais ta carrière, moi la mienne est faite. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi je vis que mes souvenirs. Puis je trouve ça, c'est le côté qui est le plaisant.
Tu connais l'histoire de Léo Major?
Ben oui.
Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme ça, on nous en a pas parlé quand on était au secondaire? T'es un petit peu plus vieux que moi, là, mais t'aurais-tu aimé ça qu'on te parle de ce gars-là, un héros québécois qui a donné sa vie au combat, qui a travaillé extrêmement fort, qui est revenu en toute humilité ici, tu sais, puis pour passer le restant de sa vie avec sa petite famille? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais entendu parler de ce héros québécois-là? Puis que là, depuis les années 2000, ben, on est une coupe, je peux m'inclure, là, parce que j'en parle régulièrement de Léo Major, on est une coupe à parler de lui. Tandis qu'à Zvolé, il y a une journée dédiée à Léo Major parce qu'il a libéré à lui seul une ville. Dans les stades de soccer à Zvolé, ben on béatifie Léo Major. Ici, ça fait quelques années, mais sans plus. Là.
C'est assez... Moi, j'ai été voir sa tombe ou ce qui est enterré.
Ah ouais.
Puis c'est une petite plaque, on dirait une feuille 8,5-14.
Ouais.
C'est tout petit, tout petit. Puis là, j'ai pris le temps de nettoyer sa petite plaque à terre pour enlever les herbes. Puis tu sais, je me dis... Puis le monument là-bas, le cimetière, c'est tellement grand que ça prend quasiment une carte pour savoir où c'est tout le monde est. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de gens de là-bas qui vont le voir. Mais je veux dire, il n'y a pas personne. Là. Puis la route Léo Major aurait dû être beaucoup plus grosse que la petite ronction.
Ben, c'est la continuité de Montaulieu.
Montaulieu, là. Fait qu'on n'est pas comparable à ce qui arrive... en Hollande, comme tu disais.
Ouais.
Moi, quand j'étais en Europe pendant mes 4 ans, j'ai fait 2 fois la marche de Nijmegen, page 184, je pense, dans le livre.
On en jasera.
Mais non, mais sincèrement, en Hollande, à toutes les années, ils font une marche pour commémorer que le Canada, il est vraiment sur spotlight. Là,
exact.
Pour dire, hey, merci d'être venu nous libérer pendant la guerre, puis tatati, tatata. Ici, ben là.
Le samedi, il va avoir samedi à Lévis pour le régiment de la Chaudière. Là.
Oui.
Il va avoir le dévoilement du buste de Léo Major, de ce que je comprends.
Là. Oh, nice, parce que oui, il venait de. Il était de ce régiment-là, si je
exact.
Me trompe pas.
Ouais. Exact. Qui était un régiment particulier à l'époque. Tu avais des gars qui. Des bad boys qui s'en allaient dans le régiment de la Chaudière.
Mais je pense que Léo Major est un bad boys en partant.
Oui, oui,
je veux
oui,
dire,
oui.
Le gars, là. Hey, il est allé deuxième, puis Caroline, il est revenu, manquait un œil, tout éclopé. Il avait des, il aurait pu surfer sur cette vague-là. Ouais. Ben non, il a tête de cochon, il retourne en Corée.
Son tank a sauté.
Ce gars-là, c'est un... Lui, c'est le vrai Rambo québécois. Là.
Ouais.
C'est...
Exact. Mais j'aurais aimé qu'on... Tu sais, des fois, quand on est jeune, on se cherche des modèles. Puis bien souvent, nous autres, c'était bon, on avait des modèles dans le sport. Mais j'aurais aimé ça, voir un modèle masculin... d'un gars, un Québécois, qui est allé se battre ailleurs, puis qui est revenu ici, puis qu'on y rend honneur à chaque année. Moi, d'avoir appris ça plus tard, j'avais été flabbergasté, puis je me suis dit, il y a juste au Québec, il y a juste nous autres qui peuvent faire une affaire de même, d'oublier ce gars-là pendant des décennies. Mais le gars était tellement humble. T'sais, sa femme, quand elle a appris tout ça, a demandé à son mari, Léo, pourquoi tu m'en as pas parlé qu'on te célébrait à chaque année? Il dit, ben parce que si je t'avais raconté tout ce que j'avais fait, tu m'aurais jamais cru. Mm. Hein, les femmes, on sait.
De base.
Oh.
mais de base, Léo Major, c'était un sniper. C'était un gars du peloton de reconnaissance. Et puis...
130 livres.
Oui, puis je veux dire, si tu rencontres un militaire sur la base ou un ancien militaire avec des grosses vestes là, puis tout, là, puis il te compte que c'est un sniper, ben dis-toi que ça n'est pas un parce que les snipers ne le disent pas qu'ils sont snipers. Fait que ça peut te donner une bonne idée. Là,
ouais. Vous gardez une certaine...
Je garde une certaine gêne,
une petite gêne, une petite gêne. Parle-moi de ton livre.
Ben, le livre, comme je disais tantôt en entrée de jeu, c'est quelque chose de très thérapeutique que j'ai commencé. Les 50 premières pages relatent vraiment le temps que j'ai passé en Afghanistan. Ensuite, on fait un retour de ma naissance jusqu'à mes 50 ans, en passant par les... Je reparle plus des mauvais coups, parce que les mauvais coups sont les 50 premières pages. Mais après ça, je dis, je peux pas cracher sur une carrière de 25 ans d'armée que, crime, j'ai même eu la chance de voler un F-18, puis d'avoir les commandes, puis... Je ne peux pas dire que j'ai pas eu de fun à faire toutes les folies que j'ai faites. Puis, moi, dire qu'être mutant en Europe de 18 à 22 ans, ça n'a pas été facile sur le fouet, là. Puis, on a eu du plaisir.
Ça s'appelle, ton livre s'appelle L'envers de la médaille.
Et voilà, oui. Okay. Je voulais juste démontrer, de me figurer sa page couverture, qu'en arrière, c'est beau avoir beaucoup de médailles, mais quand tu te projettes en arrière, tu te dis, bon, c'est peut-être moins intéressant.
T'as-tu souffert en écrivant ce livre-là? De te remémorer des moments de ta carrière où que tu avais comme un peu enfoui dans ta mémoire?
Moi, sincèrement, j'étais un gars qui avait énormément, beaucoup, beaucoup de mémoire. Okay? Puis, je l'explique un peu dans le livre. Si, mettons, avant, je dis pas que j'ai un QI exceptionnel, là, mais mettons que j'étais un gars qui performait de 110% là, versus à peu près tout le monde. Là. Mais là, je suis rendu à 10%. Puis je considère que mon 10% est devenu mon nouveau 100%. Fait que je m'assis là-dessus. Puis quand j'écrivais, par chance que j'avais tout gardé mes notes, parce que, veux pas, un document top secret provient des documents d'un dossier Word que tu écris. Puis ensuite de ça, il fait son petit chemin, puis il s'en va vers le côté secret, avec des changements de clés USB, en tout cas. Mais je veux pas, toutes les notes que j'avais prises de mes missions puis mes combats que j'avais faits pendant les semaines, c'était...
Tu prenais des notes au fur et à mesure?
C'est une équipe. On est une équipe. Là. Le soir, on s'arrivait, on disait qu'est-ce qui s'est passé dans la journée.
C'est le débrief.
C'est le débrief, exact, effectivement. Et puis, j'avais tout gardé ces notes-là. Fait que ça m'a aidé beaucoup à revenir. C'est pour ça que dans le livre, des fois, c'était à minute près. Là. Tu dis, bon, OK, c'est passé ça là. Mais moi, c'est pas vrai que je me rappelais de tout ça parce que ce que j'ai fait hier, je m'en rappelle déjà plus. Fait que j'ai perdu beaucoup de mes facultés de mémoire. Puis.
Fait que ça a pas été, ça a été difficile ou pas?
Ça a été compliqué dans le sens que je me rappelais pas de tout. Mais de ma vie avant 2009, je m'en rappelais comme si c'était hier. Mm. Toute ma jeunesse, mes ci, mes ça, mes premières blondes, tout était là. Mon temps en Europe, tout était là. Le clash s'est fait à partir de 2009. Puis là, c'était plus compliqué à décortiquer qu'est-ce qui s'était passé. Puis encore là, ben, avec l'accès aux informations, j'avais tous les documents de dossiers médicaux. Fait que j'avais tous les dossiers, les notes des psychiatres. Fait que c'était rendu facile de voir où ce que j'étais rendu en 2011, en 2010, en 2012.
Ta famille, as-tu écopé de ta carrière dans l'armée?
Moi, je suis parti, mon gars avait 10 jours, je suis revenu marcher. Fait qu'en partant, lui, moi, je me souviens pas tant de cette époque-là, j'étais pas là. Puis quand je suis revenu, ben, j'étais pas fin. Fait que c'est certain que là...
Ah ouais, t'as un caractère qui était...
Un caractère déplaisant. Puis ouais. Je pense que je suis pas le seul à vivre ces moments-là.
Non, vous êtes plusieurs.
Puis écoute, j'ai une femme exceptionnelle. Fait que ça m'aide à passer au travail. Ben, elle m'a aidé beaucoup. Sans elle, je serais probablement, comme plusieurs... on part tout le temps 158, descend en Afghanistan. Mais il y en a probablement...
Après.
Le trip qui sont partis, là. Puis ils sont partis parce que ils ont...
La vie normale
pas,
était
pas,
trop...
Pas qu'ils ont été pas appuyés, parce que l'aide psychologique, l'aide est toute là pour tout le monde. Il n'y a pas personne dans ces combattants qui va dire « je suis maltraité ». Non, non, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'aide. Mais d'avoir de l'aide à la maison, je pense que c'est une petite coche de plus. Dans...
Oui, puis tu as l'impression que sans elle, tu serais peut-être plus là.
Oh, ça, oui, mais ça, sans mes enfants, c'est certain, en tout cas.
Tu t'en veux-tu des fois? As-tu l'impression, as-tu des regrets par rapport au fait que tu as manqué des bouts peut-être de leur vie plus jeune? Ou...
Tant donné que, là, je suis retiré des forces, puis je fais partie des gens qui sont quand même bien la semaine, là. Mm-hmm. J'essaie de donner mon maximum à mes enfants. C'est certain que des lifts de poche d'hockey, j'en ai fait cet hiver, puis j'en m'en refais l'année prochaine, mais c'est quoi qui me dérange jamais? C'est quelque chose que... T'as-tu besoin de quelque chose?
C'est comme si tu rattrapais le temps perdu.
J'essaie de rattraper, là. Comme là, matin, là, il était tout attristé parce qu'il a perdu un de ses AirPods hier. Je lui ai dit, gars, là, c'est pas grave, là. Je lui ai dit, hey, là, Audrey, je lui annonce en même temps qu'elle m'écoute. Je lui ai dit, gars, là, Loïc, là, finis ton année scolaire dans le sens du monde, puis va t'en acheter un.
Ouais. Même s'il veut être militaire, tu le pousses à continuer l'école.
Moi, je veux qu'il finisse son secondaire 5.
Oui, c'est le minimum.
Parce que
pour
ça,
toi.
C'est le minimum pour moi. Ouais. Je le sais que ça prend 24 crédits, secondaire 4,
ça
etc.
Secondaire
24 crédits, secondaire 4.
Secondaire 4.
Oui, okay. Ça prend juste ça. Probablement que dans une semaine, ils vont me dire, gars, papa, j'ai dit mes 24 crédits, mais moi, ça va être non. Ouais. Parce que quand j'ai transféré officier, il me manquait mon français secondaire 5.
Ouais. Alors, tu fais bien de le
pousser. Puis là, mon français secondaire 5, je l'ai refait à 32, 33 ans. J'ai pas trouvé ça très mal le fun. Là. Mm. Je l'ai fait en 3 semaines parce que je me suis poussé de derrière pour le finir au plus vite.
Ouais.
Mais quand tu te fais reclasser secondaire 1, là, parce que mordu, mais où est donc Carniard?
Fred Caron, ton livre, L'envers de la médaille, on peut se le procurer à quel endroit?
Ben moi, il est en PDF, je peux dire, sur ma page Facebook, il est facile à trouver.
Okay.
Quelqu'un qui m'écrirait, j'y envoierais, parce que j'ai pas l'intention de le publier. J'ai été approché par quelques compagnies, beaucoup en France, qui voulaient, hey, c'est intéressant, on aimerait ça.
Ça t'intéresse pas.
Mais j'aimerais ça, puis mon but serait pas de faire une scène avec ça, parce que si j'aurais un revenu, je le donnerais à l'organisme qui en a de soldats blessés. J'ai pas le goût de faire une scène avec ça. Mais beaucoup d'organismes me demandaient de payer mes poches pour avoir les frais de publication. Puis ça m'intéresse pas, parce que je l'ai pas fait pour être vendu, je l'ai fait pour moi. Puis si quelqu'un veut le lire, mais un petit coucou sur Messenger, n'importe quoi, puis je vais l'envoyer en PDF.
Ouais. Ton gars, l'as-tu lu?
Mon gars l'a dans son sac d'école. Fait qu'il a commencé à le lire, puis je pense que ma femme l'a même pas lu.
Oh,
je pense
ouais.
qu'elle l'intéresse pas. Je pense qu'elle l'a vécu, puis
elle n'a pas besoin.
Il y a même des pages que c'était Audrey qui avait écrit que j'ai retrouvé dans un dossier psychologue, là, puis Je me faisais torturer un peu. Puis, je suis pas sûr que ça y tente tant que ça de leur dire lire. Mais comme je te dis, Audrey, elle l'a vécu en même temps que moi, je vivais ma... pas ma thérapie, mais ma...
Ben, elle vivait les contre-coups, je veux pas.
Mais... Oui. Puis, elle en vit encore un peu. Ben, je suis pas tous les jours équilibré, peut-être, comme là, je suis ici, là, je suis à l'aise, tu sais, je vous vois, je suis dans un endroit quand même qui est fun, mais je suis pas tout le temps comme ça, là, c'est pas vrai.
Beaucoup de commentaires en passant de gens qui nous écrivent au 418-971-101 qui te disent « Fred, un gros merci pour ton service ». Il y a des ex-militaires aussi qui t'écoutent. Il y a des femmes d'ex-militaires qui ont malheureusement qui nous ont malheureusement quittés qui te disent un gros merci pour ton témoignage.
Ah bien, ça fait plaisir.
Il y a des gens qui nous demandent aussi pour lire le dit livre. Fait que vous écrirez directement Fred Caron sur Facebook. Il est super facile à retrouver, pas compliqué.
Ouais, aujourd'hui, ben, c'est facile. C'est la page du drapeau des Nations Unies. Puis demain, ça va être la photo de moi puis ma femme. Ça va être aussi facile que ça. Puis des Fred Caron, il y en a quelques-uns même.
Fred Caron, un gros merci.
Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. C'est vraiment sympathique.
Partagez.
11h11, on fait une courte pause. On vient.
11h11. Dans le retour.
Cette belle rencontre avec Fred Caron.
Hey, j'ai...
T'as-tu un toit plat chez toi?
Non.
Non? T'as pas de toit plat?
Ça a l'air détestable, un toit plat, en passant.
Ah, moi, j'ai adoré ça. Oui, ben, c'est ça. C'est sûr qu'il faut que tu le déneiges 2-3 fois l'hiver. Là. Mais
qu'est-ce
moi,
t'as aimé,
j'avais, là-dedans? J'avais adoré ça. Ben, le fait que tu peux te faire une petite semi-terrasse. Là.
Ah, OK, ben là...
Moi, j'avais une petite galerie, puis là, je pouvais aller me promener sur mon toit plat. Fait que quand j'ai acheté la maison, je l'ai fait une fois.
T'avais pas peur de passer à travers?
Ben non.
Je sais pas, ça serait une crainte.
C'est vrai?
Ben là, non, non, je veux dire oui.
C'est sûr que les gens savent pas que tu pèses 800 livres, là, fait qu'ils comprennent.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas... Moi, la crainte, elle vient de là.
Mais non, un toit plat, c'est fait pour accueillir une certaine charge. Mais non, pourquoi je te parle de ça, c'est que Walmart, spécialement des Walmart du Québec, commencent à avoir des serres au-dessus du Walmart.
Mais voyons donc.
Donc, ils peuvent faire des légumes, faire pousser des légumes, puis même des fruits. De ce que je comprends, on parle de tomates, cocombes et poivrons qui ont poussé sur un toit du Walmart à Montréal. C'est au marché central. Puis, quelques minutes plus tard, ils étaient en vente en bas.
Direct. C'est quand même très cool, ça, par exemple.
C'est ça, là.
Tu sais qu'on a ça sur le toit ici, hein? Mais c'est pas des fruits et légumes, c'est du miel.
On a du... OK, ouais, c'est ça.
Mais là, tu vas me dire, c'est pas pareil. Moi, je trouve que c'est un beau parallèle. Là.
Oui, je sais, ça demande pas la même infrastructure. Là,
mais définitivement.
Mais OK, ah ouais, les abeilles, ils peuvent monter jusqu'à cette hauteur-là.
Oui, il y a des acériculteurs, c'est ça? Oui. Ils sont tout en haut, là, il y a plein d'abeilles, puis ils font du miel de temps en temps, ils descendent, donner des typos gratuits.
Et je savais pas. Ouais. Je le savais pas pendant tout. Mais
les légumes, je trouve ça, par exemple.
On a combien d'étages ici? 6?
5.
5? Mettons, on calcule 6 avec le toit qui est en haut.
Mettons.
Fait que... Ah ouais, ils peuvent monter de 6 étages, les abeilles. Je pensais qu'ils volaient genre à 3-4 mètres, là, that's it, là.
Mais moi, j'aurais jamais dit parce qu'on est en bas, on n'est pas en vallée.
On les voit jamais.
Zéro pin-bar. Mais fruits, légumes, mettons, moi, j'aimerais ça être capable de faire ça sur mon toit si j'avais un toit plat.
Ouais, c'est ça. Mais je m'en veux de jamais y avoir pensé. Mais quoi que, tu sais, c'est un toit qui est... moi, c'est un toit qui était vraiment noir.
Apiculteur, là,
Ouais, mais c'est de la sériculture.
On m'a corrigé, je connais pas ce domaine-là, fait que je préfère faire confiance.
La culture, c'est comme la confiture. Si tu l'étales trop, ça tombe sur le cœur. La sériculture, c'est vraiment l'érable.
OK, c'est ça, c'est l'érable. Donc, apiculture, c'est les abeilles.
Apiculture.
Voilà, on est mieux éduqué.
Merci, la culture.
Hey, puis les Walmart, c'est une collaboration avec les fermes Lufa.
Oui. Mais je connais pas les fermes Lufa, là, mais c'est eux autres qui ont parti ça. C'est un investissement de entre 3 et 5 millions de dollars que ça prend sur chaque toit de Walmart. Puis ils sont capables de faire des fruits et des légumes au-dessus de ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont te mettre ça au même prix que le légume qui parcourt 800 km, mettons?
Ben, il faudrait qu'ils le mettent moins cher, là. Il est fait chez nous.
Penses-tu qu'ils vont le faire?
Ben non. Ils vont vendre ça comme un produit local, deux fois le prix.
On me dit qu'il y a aussi des abeilles sur le toit de Château-Frontenac. Effectivement, il y a des abeilles sur le... Il y a plusieurs toits là, sur le Château-Frontenac. Là, puis il y a certaines terrasses où il y a des abeilles. C'était l'ancien chef français. Je perds son nom, là, mais c'est lui qui avait amené ça au Château-Frontenac.
C'est fou parce que je pense que je préférerais avoir ça sur mon toit, mettons, que dans ma cour. En frais d'entretien, là, d'avoir des serres, mettons.
Parce que tu le vois pas?
Tu le vois pas. Puis deux, j'ai comme l'impression que c'est très mental en passant ce que
Jean
je veux dire.
Soulard. Mais... Jean Soulard, oui. Bon.
Jean Soulard?
Oui.
Bon, c'est réglé. Fait que ouais, je préférais avoir ça sur mon toit de façon isolée, dans des serres, que mettons, dans mon jardin.
Ça me fait penser à mon chum menuisier quand il réparait de quoi autour de ma maison, puis c'était un peu croche. Puis là, j'ai souligné que ce qu'il avait réparé, c'était un peu croche, puis il disait « Je verrai pas ça de chez nous ».
C'est quand même bon. Il n'y a pas tort. Hey, je veux juste vous dire, pour ceux qui ont entendu l'entrevue qu'on a fait là, avec Fred Caron, je vous ai mis sur Instagram en story le lien de son livre. Il nous a permis de vous le partager de façon gratuite. Là, c'est un lien Dropbox. Là. Fait que vous allez être capable de télécharger pour ceux qui nous l'ont demandé. Là. Il y en a qui veulent le faire lire à leurs enfants qui veulent aller dans l'armée. Il y en a qui veulent le lire pour se remémorer des souvenirs. Fait que, bref, vous l'avez directement sur Instagram.
Ça t'as-tu déjà passé par la tête de faire une carrière militaire? Je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, j'ai été, c'est vendredi que j'ai été au cinéma, je ne l'ai pas vu passer, mais quand j'étais jeune, je me souvenais que je voyais régulièrement de la publicité sur les écrans de cinéma de l'armée canadienne, de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air. Puis je trouvais ça hallucinant. Tu sais, il y avait comme un appel. Là. Attends un peu, ils peuvent faire du parachute. Ah ouais, ils peuvent conduire ils peuvent piloter des avions. Ils peuvent piloter des gros paquebots.
Moi, je voulais être infirmière dans l'armée.
Tu voulais être infirmière?
Ouais, puis pas pour les bonnes raisons. Mais être vraiment honnête, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais quand même jeune. Puis c'est juste qu'on m'avait dit, ben oui, puis à 28 ans, tu sors, ils te payent ta maison, pension, blablabla. Mais tu sais, j'étais tellement pas consciente de ce que ça pouvait faire sur la tête puis sur le corps, mettons, être dans l'armée. Tu sais, moi, c'était juste comme, hey, mon Dieu, quel bel job, m'aller faire ce job-là dans l'armée, m'en revenir, tu sais, puis on va prendre soin de moi jusqu'à la fin de mes jours. Fait que j'avais zéro conscience de ce que je disais, mais moi, ça aurait vraiment été, probablement infirmière. Dans l'armée, mais pas. Je serais pas allé me battre, là, tu comprends, sur le terrain, moi, là.
Non, mais n'en demeure pas moins que tu es à risque quand même.
Ben oui,
j'ai
sûr.
Quelqu'un que je connais qui est en Beauce, qui est retraité aujourd'hui, qui m'appelait dans le temps dans la ligne ouverte. Lui, il était à la cantine. Fait qu'il travaillait sur une base militaire, exemple en Afghanistan, puis il travaillait à la cantine.
C'est fou, on réalise pas tous les métiers qu'il y a.
Puis lui, dans son cas, là, quand il est revenu ici, il essayait de dormir, puis il entendait encore les bombes tomber proches.
C'est fou, hein?
Il était encore hyper stressé. J'étais pas tant dans le champ que ça, là, pour ce qui est des abeilles. Là. Les abeilles volent généralement à la hauteur de 2 à 4 mètres.
Bon.
Mais ils peuvent être emportés par le vent à 1500 mètres.
Mais ils sont élevés, eux autres, puis tout le fait qu'ils doivent, ça doit être bien géré, là.
Ouais, c'est ça, ils sont élevés.
Ils les ont éduqués comme du monde, là. Ils les ont éduqués pour être élevés au sixième étage.
Ouais, moi, j'y ai pensé quand j'étais plus jeune, en raison du film Top Gun, là.
Tu reviens au militaire.
Oui, c'est ça. Ce que je voulais. Ah, c'est vrai.
Je pensais faire de l'apiculture.
Excuse-moi. Il faudrait que j'y aille étape par étape. Mais,
Yannick! T'es pas correct!
Mais dans le film Top Gun, tu sais, c'était attrayant pour les jeunes de mon âge, là. Jusqu'à temps que j'aille m'informer du côté des cadets, des corps de cadets. Tu sais, t'avais cadet de l'air, t'avais cadet de mer, t'avais cadet de terre. Puis on m'avait dit, oui, cadet de l'air, aucun problème, mais si tu veux devenir pilote dans l'armée canadienne, attelle-toi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés, très, très peu d'élus. Puis ça m'avait découragé.
Fait que t'avais abandonné.
J'avais abandonné à 14 ans.
Yeah, voyons donc. Tu penses que t'aurais été bon?
Je le sais pas. Écoute, j'ai quand même eu mes licences de pilote. Sauf que on m'a dit que piloter un Cessna 152, mettons, c'est pas la même chose.
Pas même game.
Qu'un F-18, mettons.
Mm. Il paraît.
C'est ce qu'ils m'ont dit.
Semble-t-il.
Mais quand mon gars me demande si je serais capable de piloter d'avion-là, ben oui. De l'armée, je dis toujours oui.
T'es heureux, ben oui, on sait. Là.
Parce que pour mon gars, son père, c'est le plus fort.
Oui, le plus fort.
On se laisse là-dessus, père. Ma belle Audrey. On t'écoute tantôt avec Denis à 14h.
Oui, m'amener ma tête mêlée de ce bord-là.
Exact. Nous autres, on se laisse avec les vulgaires machins. Pascal CV s'en vient. Jamais assez sur Boulevard. Si vous avez des choses à me dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Profitez du soleil, parce que la pluie s'en vient cet après-midi.